je souhaiterais surtout montrer ici, maintenant, durant le temps qui m'est imparti, c'est la productivité, en fait, que les notions tirées de cette approche dispositive de l'expérience ont apporté à la compréhension de rencontres animales beaucoup plus ordinaires, d'une part, en tout cas qui se passent dans des lieux plus ordinaires que les rencontres en mer avec des dauphins, et du travail thérapeutique avec des animaux d'autre part. Mais avant ça, un petit rétropédalage. Donc, les premiers usages de la notion d'enchantement, c'était, comme je l'ai dit le premier jour, dans mon doctorat. Et le titre suggéré par Yves, parce que je ne trouvais pas de titre, Yves qui était donc mon promoteur, c'était la communication interespèce entre enchantement et désenchantement. Et l'usage de la notion là d'enchantement faisait surtout pour moi référence au charme, dans l'ancien sens du terme, qui souvent, en fait, dans les mythes, permettait la communication avec les animaux. Vous savez, c'est l'anneau du roi Salomon, on passe l'anneau, et puis tout à coup, on est capable de comprendre le langage des animaux, tout devient limpide. Et donc, c'était à ça, en fait, que la notion, dans ma thèse, la notion d'enchantement faisait référence, parce qu'il était question de gens qui partaient en mer nager avec des dauphins et qui vivaient là une communication télépathique et transparente, où ils avaient l'impression que le dauphin leur parlait et puis de tout comprendre, en fait, de ce qui se passait. Donc c'est à ça que ça faisait référence. Et puis, enchantement et désenchantement, ça faisait aussi référence au basculement, puisque de l'enchantement au désenchantement, puisque, en fait, le point de vue rationnel sur ces rencontres disait qu'au fond, tout n'était qu'illusion anthropomorphique, et que, enfin, qu'illusion en tout cas, et qu'en réalité, il ne se passait rien, et qu'en réalité, il n'y avait pas de communication. C'était forcément une illusion. Donc, il y avait ce basculement. Et puis, j'ai un peu abandonné le sujet, je ne savais pas trop comment le prendre, en fait, comment l'aborder. Et j'y suis revenue avec Arnaud Allois dans un travail qu'on a assez approfondi, en fait, qu'on a fait autour de ces rencontres enchantées avec les dauphins, donc des témoignages de rencontres, et qu'on a associé avec le travail d'Arnaud, qui est un anthropologue du religieux, et son travail à lui portait sur la possession dans les rituels de Candomblé au Brésil. Donc deux univers culturels extrêmement différents. Et ce qui nous avait intéressé, c'est qu'on avait l'impression qu'en fait, entre mes rencontres enchantées avec des dauphins et puis ces possédés, il y avait des similitudes dans l'expérience. Et on est parti de là, en fait. On s'est donc concentré sur l'expérience telle qu'elle était rapportée par nos témoins, je vais dire. Et on a dressé une liste de ce qui nous semblait important pour la qualifier. Je vais vous donner cette liste. Il y avait une suspension de l'expérience ordinaire, c'est-à-dire que l'expérience, elle avait un début et une fin, et elle était bien circonscrite dans le temps, et il y avait cette suspension de l'expérience ordinaire. Des sensations et des ressentis bizarres et inhabituels, des sentiments d'amour infini, des sensations étranges, enfin, donc un côté inhabituel et bizarre. Un sentiment de révélation, les gens disaient s'être découverts eux-mêmes dans cette rencontre avec un animal. Ils avaient découvert qui ils étaient vraiment, et ça, voilà, ça change. Et donc, des changements, c'est des rencontres qui étaient productives de changements. Changements dans la manière dont la personne se perçoit, reconfiguration de son identité, rupture biographique, on déménage, on divorce, enfin, donc c'est cette notion de rupture biographique. Il y avait aussi quelque chose qui nous paraissait important, c'était une incertitude à propos de ce qui se passe, qu'on a appelé opacité cognitive. On était allé rechercher ça dans la technologie de l'enchantement d'Alfred Gell. Cette notion qu'il y avait un blocage de la symbolisation qui nous paraissait aussi un élément important de l'expérience. Une qualité d'attention particulière qu'on a appelée absorption, mais qu'on pourrait appeler aujourd'hui pleine conscience, c'est que la personne, elle est totalement présente à la situation, ou surprésence. Elle est totalement présente à la situation, elle est à la fois présente à ce qui se passe en elle-même, mais aussi une attention vraiment à tous les détails, tout ce que fait le dauphin. Et puis un état de dissociation non pathologique, puisque la personne, elle pense, mais elle ne se vit pas comme l'auteur de ses pensées. Elle pense que c'est le dauphin qui lui parle, évidemment, à travers ses pensées. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'était qu'il y avait une similitude, en fait, dans ces expériences, qui survenaient pourtant dans des situations culturelles extrêmement différentes. Et la question qu'on s'est posée, c'était mais comment est-ce que les gens en viennent à expérimenter ça, de tels bouleversements, qui s'avèrent être en dehors de leur contrôle, mais qui pourtant sont d'une certaine façon prévisibles. Donc on voyait bien que ça ne marchait pas toujours, qu'il y avait des gens qui partaient rencontrer des dauphins, puis rien ne se passait. Donc il n'y avait pas une détermination totale, évidemment, par la situation, ni une détermination par la personnalité, mais ces expériences étaient quand même rendues beaucoup plus probables par un certain dispositif. Et donc, voilà, comment ces expériences pouvaient être à la fois spontanées et involontaires et pourtant prévisibles. Et c'est là qu'on a emprunté à Emmanuel Belin, qui a été cité hier, sa notion de dispositif d'enchantement, et on l'a adapté à notre terrain. Et donc, tel qu'on l'avait conçu, ce dispositif était on l'avait conçu en trois moments, en fait, tel qu'on l'avait envisagé, quoi. Le premier moment, c'est ce qu'on avait appelé l'organisation des attentes et des dispositions. C'est un moment au cours duquel l'imaginaire est déverrouillé. Par exemple, dans mon cas, les gens lisent des choses sur les dauphins, sur Internet ou dans des revues. Et ce qu'ils en lisent font que... Ben, se pose la question, mais qu'est-ce qu'un dauphin finalement ? Les dauphins ne sont pas juste des animaux, puisqu'ils sauvent des humains, ils font plein de choses inhabituelles, étranges. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est finalement un dauphin ? On n'en sait rien, quoi. Donc, l'imaginaire est déverrouillé. Il y avait aussi une éducation de l'attention qui se passe sur le bateau, où on apprend, enfin, on peut faire une petite méditation ou bien on apprend à ressentir le corps d'un dauphin. Donc il y a toute une préparation. Et puis, il y a l'expérience elle-même où c'est la rencontre avec un environnement aménagé dans lequel il y a toute une série de saillances perceptuelles qui sont liées les unes aux autres. Il y a toute une série d'affordances, ce qu'on avait appelé nous des saillances perceptuelles qui sont là, qui vont faire saillance, qui vont organiser la perception, qui vont organiser l'expérience et donc faire prendre d'une certaine façon l'expérience d'enchantement. Et puis il y a une troisième étape qui était importante en fait, qui est la validation sociale de l'expérience, parce que au fond, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Et puis donc les gens avaient besoin d'en parler, de ce qui leur était arrivé, et puis que ça soit validé comme une vraie rencontre dauphin, c'est-à-dire il y a effectivement eu cette communication. T'as eu cette rencontre, quoi. Et cette validation sociale de l'expérience, elle est aussi importante parce que, en fait, finalement, cette expérience de rencontre dauphin, elle peut aussi avoir des aspects traumatiques, dans le sens où ce qui est vécu ne l'a jamais été, on ne s'est pas nommé, donc il y a aussi quelque chose de désorganisateur, et on en a aussi parlé hier dans l'expérience. Donc la validation sociale, elle est importante. Donc ça, c'était le travail qu'on avait fait avec Arnaud. Et ce que je voudrais faire maintenant, après vous l'avoir présenté brièvement, c'est revenir un petit peu à Emmanuel Belin, dont on a déjà un petit peu parlé, et puis vous dire comment finalement ce travail-là a nourri ma façon d'aborder plus récemment les rencontres animales et puis le travail thérapeutique avec les animaux. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon exposé, c'est de revenir un petit peu sur le travail d'Emmanuel Belin. Donc, comme on l'a dit hier déjà, le problème qui se trouve au cœur du travail d'Emmanuel Belin, qui s'appuie essentiellement sur l'œuvre du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, c'est celui du rapport ou de la commensurabilité entre le monde intérieur et la réalité extérieure. Emmanuel Belin, il se demande, et en fait, c'est la tragédie de sa vie, je pense, puisqu'il a mis fin prématurément à ses jours, c'est comment rendre la réalité extérieure supportable. Comment entrer en relation avec un monde extérieur qui est différent de soi sans être détruit finalement ? Comment établir un rapport créatif au monde, c'est-à-dire un rapport qui permette la croissance de l'identité ? Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'il pose, qui sont des questions où on reconnaît bien en fait les thématiques du travail central de Winnicott, mais il va en faire des questions sociologiques. Et il va proposer de faire ce qu'il appelle une sociologie des espaces potentiels. Et donc, il propose de transférer ces questions à la sociologie en considérant finalement que la réalité extérieure est devenue tellement complexe que les ressources personnelles de l'individu ne suffisent plus à se fabriquer une expérience qui tienne, une expérience intégrée, continue et subjective. Les mots eux-mêmes, dit-il, qui sont quand même des outils de médiation par excellence, hein, entre soi et le monde, sont insuffisants. Face au danger toujours présent du vertige ou de l'angoisse devant cette incommensurabilité entre les exigences du réel, ce que le réel attend de moi, et mes compétences, hein, et les compétences du sujet, les dispositifs d'enchantement tels que les conçoit Emmanuel Belin sont des environnements aménagés, donc c'est comme ça qu'il les décrit, des environnements aménagés qui vont travailler à la fois la présentation de l'objet, donc la façon dont on présente l'objet au sujet, et la préparation du sujet, de façon, dit-il, à rendre vraisemblable l'hypothèse de la bienveillance du monde, et de façon à ce que le sujet puisse continuer à croire au monde qui est là, et puis aussi à avoir confiance, finalement, dans le monde. Donc il s'agit à la fois de travailler sur les compétences du sujet, en les améliorant, par exemple, et sur la façon dont l'environnement est présenté. Et vous voyez ici qu'il y a un lien évidemment avec la mère suffisamment bonne de Winnicott qui va présenter à son bébé un monde aménagé de telle sorte que le bébé soit capable d'entrer en relation avec ce monde. Alors la fonction du dispositif, c'est de dispenser le sujet d'avoir à unifier lui-même son expérience. Donc le dispositif va préparer le monde ou présenter le monde de telle façon que finalement cet effort d'imagination qui est demandé à chacun, cet effort d'imagination, cet effort de composition de son expérience, c'est-à-dire d'agrégation, de mettre en lien, de mettre les morceaux ensemble, je dirais, donc de composition de cette expérience, va se trouver immobilisé, capitalisé ou réifié dans l'organisation de l'environnement. Et donc, tout cet effort ne sera plus accompli entièrement par le sujet, ça va être, la tâche va lui être facilitée. L'environnement aménagé prémâche le travail, finalement, et il va offrir une configuration sur laquelle l'expérience peut s'organiser. C'est pourquoi, d'ailleurs, dit Belin, cet effort d'imagination n'est pas individuel, mais collectif, puisque l'environnement est préparé collectivement, et donc l'imagination n'est pas que dans l'individu. Pourquoi parler d'enchantement? Vous allez me dire, oui, tout ça, c'est très bien, mais pourquoi finalement, d'où vient la notion d'enchantement? Bien, en fait, dans une autre partie de son travail, Belin s'intéresse à l'expérience et il va la situer entre ce qu'il appelle les deux bords, finalement, de l'expérience, que sont d'un côté l'ennui et de l'autre l'angoisse. Et l'ennui, c'est quand finalement le monde est tellement plié, que finalement toutes mes attentes vont être réalisées. Je sais que toutes mes attentes seront réalisées et donc il n'y a plus aucun intérêt à déambuler, puisque voilà, le monde est tel que je l'attends. Ça, c'est l'ennui. Et puis l'autre, c'est l'angoisse, c'est l'autre opposé, quand il n'y a rien auquel je peux m'accrocher, ce monde est totalement imprenable, si je puis dire. Et donc, le dispositif va faire varier, dit Belin, ce qu'il appelle les maximums de vraisemblance, c'est-à-dire qu'il va permettre que ce qui est très vraisemblable, finalement, ou très probable, ou quasi certain, soit démanié, soit rendu singulier, soit toujours éventuellement un peu incertain. Et puis d'un autre côté, ce qui est très improbable devient plus vraisemblable. Et c'est un peu ce qui se passe avec nos rencontres dauphins. Et donc il y a toujours, dit Belin, au sein d'un dispositif, ce qu'il appelle une promesse de surprise. Et c'est ça qui va être producteur d'enchantement, d'une certaine façon. C'est cette promesse de surprise où quelque chose peut se passer, mais je ne suis jamais sûre que ça va se passer. Il y a une attente vague que quelque chose arrive qui se trouve finalement, qui motive l'entrée dans le dispositif et la déambulation dans le dispositif, parce qu'il parle toujours de déambulation. Bien. Voilà, j'ai un peu posé les choses, fait ce petit rappel très bref du travail d'Emmanuel Belin. Donc je vais maintenant en venir à ce que ça peut, à ce que ça a eu comme influence finalement, comment ça peut aider à voir ce qui se passe dans un dispositif thérapeutique avec des animaux. Mais je pense qu'introduire des animaux dans un dispositif de soins, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle la médiation animale, c'est aussi en fait proposer aux patients un environnement dans lequel le travail d'unification de son expérience va être prémâché, dans le sens où les ressources de l'individu peuvent à présent être suffisantes pour pouvoir entrer en relation, pour pouvoir se constituer en tant que soi, même pour des personnes qui ont des ressources très limitées. Elles vont trouver là la possibilité d'organiser une expérience continue, intégrée et subjective, pour reprendre les termes de Belin. Et donc, on pourrait considérer que l'introduction d'un animal dans un dispositif de soins relève de l'enchantement, en ce qui permet aux patients de se fabriquer une expérience qui tienne, et donc ouvre un travail de nouaison entre, je reprends encore les termes de Belin, la réalité intérieure et le monde extérieur. Finalement, ça ouvre un espace potentiel dans un dispositif thérapeutique. Alors, je vais vous parler un tout petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais du travail d'une psychologue qui s'appelle Nadine Fossier-Varnet, qui est un travail que j'aime beaucoup. Et elle parle ici de son travail avec une patiente gravement grabataire, atteinte d'Alzheimer, et auquel elle a proposé, qu'elle a mis en présence de son chien. Et donc, ce qui va être particulier ici, c'est qu'elle décrit bien, en fait, Nadine, elle raconte bien comment on voit finalement le patient, la patiente qui, en tant que patiente grabataire et gravement Alzheimer, est complètement, en morceaux, d'une certaine façon, comment elle arrive à se reconstituer à travers ses interactions avec le chien. Voilà, elle décrit donc tous ces changements qui sont infimes, mais néanmoins, donc Nadine décrit donc ces changements qui sont infimes, mais néanmoins significatif, qu'elle observe chez Elsa au contact de Mowgli. En présence du chien, qui se tient couché sur son lit, les mouvements stéréotypés des mains d'Elsa n'occupent plus tout l'espace. Ils s'organisent autour du corps du chien, agrippement, toucher, puis caresse. Au fil du temps, et là je cite Nadine, « comme en miroir, Elsa semble réinvestir sa propre enveloppe corporelle dans le jeu exploratoire avec l'animal », un jeu que j'écoute avec attention, écrit la psychologue. Au fil des semaines, Elsa se montre moins angoissée, elle ne se griffe plus, n'arrache plus ses vêtements, ne se macule plus de sel la nuit, se redresse sur sa chaise et un jour prononce « Mowgli ». Dans ces séances, en fait, au sein des séances, les temps d'activité et d'exploration d'Elsa alternent avec des temps de repos. Donc que fait-elle, en fait, Elsa, avec le chien? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pas grand-chose, mais beaucoup. Donc, les temps d'activité et d'exploration d'Elsa alternent avec des temps de repos, de détente, qui vont parfois jusqu'à l'endormissement. Donc, elle s'endort au rythme de la respiration du chien, à laquelle elle est devenue attentive. Certains jours, Elsa initie avec Mowgli un jeu où elle le fait à plusieurs reprises disparaître et réapparaître grâce à une couverture. Elle enchaîne des moments d'apparente passivité avec des moments d'activité intense. Et au bout de quelques mois, Dinadine, après avoir serré Mowgli plus fort contre elle et l'avoir longuement caressé, car elle a appris à le caresser, à le masser, elle prononce un mot, ou plutôt un nom, Mowgli. Et Nadine va parler à propos du travail avec Elsa de réanimation psychique. Il semble qu'au contact de Mowgli, elle trouve un moyen de renouer le contact avec le monde social humain qu'elle avait complètement perdu, et d'oser exister un peu. La communication avec Mowgli, elle est rudimentaire, mais les liens tissés n'en sont pas moins solides. Être en présence du chien et partager avec lui ses modes de communication corporelle semble effectivement permettre à Elsa de reprendre corps et d'exister psychiquement. Pour la psychologue, la rencontre avec le chien, en ce qu'elle a de sensoriel, vient faire événement dans le corps. Et cet événement est susceptible de permettre au patient, à partir d'un agrippement ou d'un éprouvé corporel, de se rassembler et d'être contenu psychiquement. Alors, cet éprouvé corporel, c'est le point d'ancrage à partir duquel Elsa peut s'agréger. Mais je trouve intéressant qu'il y a plus que ça, et ça fait la différence, je pense, par rapport aux animaux robots, dont on a un peu parlé hier, quelque chose qui me préoccupe, en fait, l'histoire d'animaux robots. Parce que l'éprouvé corporel qui se produit en présence du chien a ce site particulier qu'il s'offre à l'attention de l'animal. L'animal est présent et réagit évidemment aux réactions d'Elsa à son égard. C'est pourquoi, dans les rencontres cliniques qui sont envisagées ici, je pense que les animaux permettent doublement de reprendre corps. D'abord parce qu'ils suscitent des ressentis corporels à partir desquels une communication peut s'établir, mais aussi parce qu'ils perçoivent les patients comme des corps expressifs. L'éprouvé corporel est alors vécu en tant qu'il est perçu par le chien, et cet écho de soi que renvoie le chien, même s'il apporte un certain écart ou un décalage, puisque c'est évidemment, ce n'est pas un humain qui entre en écho, c'est un chien, Donc, cet écho de soi que renvoie le chien offre une structure qui est une structure spatiale, mais aussi une structure temporelle, parce qu'il y a toutes ces dimensions rythmiques qui est importante, une structure kinésique sur laquelle le soi peut s'organiser. Tout ça fait que, voici maintenant Elsa, incapable à minima de ne pas cesser d'exister une fois qu'elle est perçue par autrui et de pouvoir de nouveau entrer en relation. Voilà, je passe maintenant à la dernière partie, qui porte, elle, sur des rencontres animales qui prennent place dans des lieux ordinaires. C'est plus du tout des gens qui partent en mer rencontrer des dauphins, mais c'est des gens qui rencontrent, alors ici c'est des chevaux, dans un manège, donc beaucoup plus inséré dans la vie quotidienne. Alors c'est des rencontres qui ont la particularité de pouvoir se lire comme des moments présents, et selon l'expression du psychologue Daniel Stern, qui est à dire un moment relativement bref au cours duquel une histoire émotionnelle est vécue. Et donc pour étudier ces rencontres, j'ai réalisé des entretiens approfondis avec ici 6 participants au certificat de l'université en médiation animale que j'organise. Et ces entretiens portaient sur un moment où il s'est passé quelque chose dans une rencontre avec un animal. Donc c'est des rencontres avec des chevaux, comme je le disais, qui sont produites dans des situations faiblement structurées, dans des interstices de situations plus structurées. C'était des moments, des entre-deux, en fait. Alors, ça a son importance parce que c'est des moments, c'est des situations qui ne sont pas structurées parce que Descola, par exemple, pourrait appeler les schèmes de la pratique où on nous explique comment faire avec un cheval ou ce qu'on doit. Et donc, c'est des moments qui se passent à côté de ça. Et donc, où il y a une certaine indétermination ou une sous-détermination de ce qui doit se passer, quoi. Dans ces rencontres, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses sans nom qui circulent. Et on ne sait pas très bien, finalement, ce qui s'y passe, ce qu'il en est. Tout ça est un peu flou, quoi. Et donc, pour traiter ce dernier point, je vais m'appuyer sur un texte que je trouve magnifique de François Roustan, donc un hypnothérapeute, qui a écrit une petite introduction à la réédition de l'ouvrage d'un essai consacré par Hegel au magnétisme animal, qui est finalement une forme ancienne de l'hypnose. Et dans cet essai, Roustan reprend la notion d'âme sentante de Hegel, qui est finalement un mode de sensorialité, où dit-il, la sensation n'est liée à aucune modalité sensorielle spécifique. Il dit, cette sensorialité ignore les distinctions entre les sens, elle reste dans un état d'indétermination. Aucune sensation n'est privilégiée pour former des connexions stables. Et donc, pour Roustan, cette modalité du sentir, eh ben, elle peut réapparaître dans l'hypnose, mais elle aussi réapparaît dans certaines rencontres animales. On trouve, en fait, là je vais passer un petit paragraphe, et donc on trouve dans toutes ces rencontres que j'ai examinées d'un peu plus près, on trouve quelque chose qui s'est passé et qui est venu interrompre le cours normal des choses, provoquer une brèche dans le temps et l'espace subjectif, et aussi souvent interrompre la pensée. Là, je cite l'interview. « Je ne savais plus penser, je suis sortie de mes pensées et je n'ai été que dans le moment vécu présent. » Une autre, « Dans la situation, il n'y a qu'elle qui compte, comme si je n'avais pas eu de pensée. » Puis une troisième, « C'est un peu comme si je perdais mes moyens, comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait, sa beauté, » dit-elle. Certes. Mais ce que je trouve peut-être plus intéressant, c'est que le fait, selon Roustan, avec cette indétermination, vient ce qu'il appelle un pouvoir ou une énergie, et il parle du potentiel de guérison de l'expérience hypnotique. Il dit, finalement, ces potentialités étaient stockées, elles étaient en attente, et elles peuvent être intégrées grâce à leur liberté de mouvement. Elles élargissent et intensifient les potentialités de l'individu. Et donc, il y a une force, en fait, ou un sentiment de force qui se dégage. C'est ce que dit ce témoignage. Elle dit, être si proche d'elle, elle parle de la jument qui était si paisible, ça me donnait une grande puissance, une force qui se situait entre son nez et mon ventre, comme quelque chose comme un aimant qui attirait toute mon énergie. Je la sens dans mes tripes. On ne se touche pas, mais c'est comme si, avec cette force-là, on était l'une contre l'autre, dit Céline. Une autre dit... J'ai l'impression, de toute cette description que je viens de faire, que ça a l'air très lent et silencieux, alors que l'énergie que je ressens est très haute, en fait. Je me sens high, en pleine forme, capable de déplacer des montagnes. Je me sens une pêche d'enfer, dans tout mon corps et tout mon esprit même. Les choses sont claires, il n'y a pas de zone d'ombre. Donc, si on suit Roustan, on doit faire l'hypothèse que, dans certaines conditions du moins, le fait de se trouver face à un animal, une rencontre animale, vont être aussi propices à l'émergence spontanée, je veux dire, de cette âme sentante, hein, ainsi qu'à la libération de ressources associatives permettant que des potentialités s'agrègent d'une nouvelle manière. Bon, c'est ce que je trouve intéressant dans le travail thérapeutique avec les animaux. On parle toujours de confiance en soi, enfin de choses assez banales, qui trivialisent finalement ces rencontres. Moi, je crois que ce qui s'y passe est beaucoup plus profond que ce qu'on en dit habituellement. J'ai peut-être dernière chose pour conclure, c'est que dans ces rencontres, il y a l'individu fait l'expérience du soi dans les liens qui le constituent, mais les liens qui le constituent, ils sont déterminés par l'animal, pas seulement par l'individu. Ils sont déterminés par l'animal, mais tout de même l'individu a l'impression, la personne a l'impression de se trouver elle-même et de se rencontrer elle-même. Hein. Il y en a une qui dit « C'était un des plus beaux moments de ma vie, cette rencontre avec ce cheval. J'ai l'impression de rentrer à la maison. C'est ça qui me passe par la tête, l'impression de rentrer chez moi. » Donc, conclusion. Donc, pour rendre justice à toutes leurs caractéristiques, j'en suis venue à conceptualiser les rencontres animales comme se produisant dans un espace potentiel, tel qu'il a été défini par Winnicott, qui est un lieu où l'intérieur et l'extérieur ne se distinguent pas vraiment, où le moi peut s'identifier à ce qui est différent de lui et croître de façon créative. En raison de leur altérité physique, et enfin bref, tout ce qui sont différents de nous, les animaux nous offrent un défi pour les compétences interactives, nous offrent un défi pour l'intégration de notre expérience. Et donc, il y a toujours un côté angoissant, en fait, l'angoisse de devenir inhumain ou l'angoisse de devenir non-humain. Mais si la rencontre a lieu dans un cadre ou un contexte bienveillant, eh bien, le défi peut conduire à une agrégation créative de l'expérience. Alors, il y a évidemment des dispositifs qui sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire qui ne dépendent que d'un individu. Il y en a qui sont très culturels et où c'est très verrouillé, très câblé, je dirais, où l'expérience est fort contrainte, mais dans tous les trucs que je viens de vous parler, là, c'est tout à fait idiosyncrasique. Rien n'était préparé et c'est survenu de façon tout à fait spontanée. Et donc, on pourrait dire, et je conclue avec ça, que d'une certaine façon, hein, étant donné leur particularité perceptive, la communication corporelle qui s'éveille à leur contact, bah, que les animaux sont des dispositifs d'enchantement mobile, mais l'expression est vraiment vilaine. Mais la rencontre est toujours susceptible d'entraîner un trouble, une incertitude et donc une promesse de surprise qui sont propices à l'expérience d'enchantement. Je m'arrêterai là.
Merci beaucoup.